Il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
Anne Verdaguet.
Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal en français facile. Pour m'accompagner ce soir, Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
À la une, la mort dans une attaque contre son convoi de l'ambassadeur d'Italie en RDC. Le président italien a déclaré le pays en deuil.
En France, le littoral de la Côte d'Azur sera en partie confiné les deux prochains week-ends devant la montée des cas de Covid-19.
En Birmanie, des centaines de milliers de personnes de nouveau dans la rue aujourd'hui pour réclamer le départ des militaires qui poursuivent la répression.
Les journaux.
Le journal.
En français facile.
En français facile.
En République démocratique du Congo, la mort de l'ambassadeur d'Italie après l'attaque d'un convoi de l'ONU.
L'ambassadeur a été victime de cette attaque perpétrée dans la province du Nord Kivu et a succombé à ses blessures. Même chose pour son garde du corps italien et un chauffeur congolais du PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Le gouvernement congolais a dit regretter ce drame et assure ne ménager aucun effort pour le rétablissement de la sécurité dans cette région. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé à la RDC d'enquêter avec diligence sur cette attaque. Depuis cette annonce, les hommages pleuvent en Italie. À Rome, Anne Lenir.
Âgé de 43 ans, père de trois fillettes qui vivaient avec lui et son épouse, Luca Anastasio, en poste à Kinshasa depuis 2017, était l'un des plus jeunes ambassadeurs italiens dans le monde. Le carabinier Vittorio Iacovacci, membre de son escorte, aurait eu 31 ans le 31 mars. Informé de l'attaque lors d'une réunion à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio a anticipé son retour à Rome, où toute la classe politique exprime sa profonde douleur. Dans un communiqué, le chef du gouvernement, Mario Draghi, a présenté ses condoléances aux familles des victimes, à l'arme des carabiniers et aux fonctionnaires des affaires étrangères. Il a assuré que tout sera mis en œuvre pour faire la lumière sur l'attaque contre le convoi onusien. Pour sa part, le président de la République, Sergio Mattarella, a déclaré que l'Italie est en deuil pour ses serviteurs de l'État qui ont perdu la vie dans l'accomplissement de leur devoir en République démocratique du Congo. Anne Lenir, Rome, RFI.
La lutte contre le coronavirus, à présent, le Premier ministre britannique espère un retour à la quasi-normale pour l'été prochain.
Et le déconfinement commencera par la réouverture des écoles début mars, même si Boris Johnson dit qu'il veut rester prudent. Dès le 29 mars, la consigne de rester à la maison sera levée et les pubs et restaurants devront attendre le 12 avril. Un plan de sortie de crise en quatre grandes étapes. La campagne de vaccination massive dans le pays a entraîné une baisse des contaminations, des hospitalisations et des décès. Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 121 000 morts. Outre-Atlantique, les États-Unis se rapprochent du demi-million de morts. Le président américain va ordonner une mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux qui durera 5 jours.
En France, le reconfinement partiel de Nice et de son littoral.
L'épidémie de Covid-19 ne faiblit pas dans les Alpes-Maritimes. Bien au contraire, selon les derniers chiffres annoncés par le préfet, le taux d'incidence du virus est de 588 pour 100 000 habitants. C'est plus de 3 fois la moyenne nationale. Le taux de positivité du virus est, lui, de plus de 10% et de 100%, et les hôpitaux de la région arrivent à saturation. Les autorités ont donc décidé de serrer la vis. Le préfet des Alpes-Maritimes l'a annoncé à la mi-journée. Nice et ses environs vont donc être partiellement confinés dans les prochains jours. Cédric de Oliveira est sur place.
C'est le département de France qui souffre actuellement le plus de la pandémie. Les dernières semaines ont été difficiles pour les soignants des Alpes-Maritimes, à Nice bien évidemment, mais aussi à Grasse, située à une trentaine de kilomètres. Cédric Etienne est infectiologue au centre hospitalier de la ville.
La situation est assez tendue en unité Covid. On est à 20 patients hospitalisés sur une capacité de 23. On s'adapte. Mais il est possible que dans les jours et semaines à venir, l'ARS nous demande de déprogrammer si l'afflux de malades continue à venir.
L'hôpital a tout de même dû transférer un patient à Marseille pour soulager son service de réanimation. Alors le tour de vis annoncé par les autorités a été accueilli avec soulagement par le personnel, même si le reconfinement partiel ne suffira pas pour endiguer la progression de la pandémie dans le département.
Effectivement, ces mesures sont bienvenues. Maintenant, il y a aussi le dépistage qui doit se poursuivre, voire s'intensifier, et surtout intensifier la vaccination des personnes à risque et notamment des professionnels de santé.
Ce sera peut-être pour très bientôt. Les Alpes-Maritimes ont reçu 4500 doses supplémentaires du vaccin Pfizer ce lundi. D'autres livraisons concernant le sérum d'AstraZeneca devraient avoir lieu dans les prochains jours.
Les Boeing 777 cloués au sol.
Après l'incendie spectaculaire survenu au-dessus du Colorado hier d'un appareil de la compagnie United Airlines, tous les Boeing 777 équipés du modèle de moteur mis en cause sont en effet à l'arrêt. L'Office national des transports et de la sécurité des États-Unis enquête aussi sur l'incident au cours duquel, fort heureusement, personne n'a été blessé.
Des centaines de milliers de Birmans sont de nouveau descendus dans la rue ce lundi.
Dans plusieurs villes du pays, ils dénoncent toujours le coup d'État militaire. Depuis le 1er février, ce mouvement de protestation prend de l'ampleur malgré la répression menée par le régime militaire. La communauté internationale tente de maintenir la pression sur la junte birmane. L'Union européenne a décidé aujourd'hui des sanctions ciblées contre les intérêts économiques et financiers des militaires. Le secrétaire général de l'ONU s'exprimait devant le Conseil des droits de l'homme et il a demandé l'arrêt immédiat de la répression. Antonio Guterres.
Nous assistons à un travail de sape de la démocratie, l'usage d'une force brutale, des arrestations arbitraires, la répression dans toutes ces manifestations, des restrictions de l'espace civique, des attaques contre la société civile, des violations sérieuses vis-à-vis de minorités sans responsabilisation, y compris ce qui a été appelé avec raison un nettoyage ethnique de la population Rohingya. La liste continue. Tout cela a conduit à un soulèvement de cette ampleur. Aujourd'hui, j'appelle l'armée birmane à cesser la répression immédiatement, relâcher les prisonniers, mettre fin à la violence, respecter les droits de l'homme et la volonté du peuple exprimée lors de récentes élections. Les coups d'État n'ont pas leur place dans notre monde moderne.
Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, ce lundi devant le Conseil des droits de l'homme.
Et puis en ces temps de récession économique, la sortie d'une nouvelle revue papier.
Oui, un acte courageux, surtout quand celle-ci va à l'encontre de la frénésie ambiante de la course aux infos. Le premier numéro d'Epic, c'est son nom, vient de sortir entre le livre d'art et le magazine. La revue se propose de raconter le monde en photos et en récits, une sorte de média lent qui était une nécessité pour ses auteurs. Muriel Malouf les a rencontrés.
Éteindre les écrans, se retrouver enfin, c'est le mot d'ordre d'Epic, écrit en grand au début du premier numéro. Jean-Mathieu Gauthier, cofondateur de la revue avec Ambroise Touvet, de Quadragénaire.
On est cette génération qui consomme beaucoup d'images par les réseaux sociaux. Ça peut être suffisant, mais il y a toujours une petite frustration. Du coup, le papier a une valeur qu'on a besoin de retrouver. On est dans un monde de l'immédiat. Les tweets de Donald Trump, qui heureusement n'existent plus vraiment, nous l'ont montré. Il y a une espèce de frénésie dans l'information. Et par rapport à toute cette frénésie, on a besoin de prendre du recul. Et c'est ce que font très bien les photographes documentaires.
Des photographes qui nous ouvrent un monde vaste. Tamara Eckhart, 25 ans, a vécu en Irlande au sein d'une minorité de gens du voyage. Elle raconte leur quotidien à travers les enfants qu'elle a aussi aidés à faire leurs devoirs. Mathieu Pallet a vécu avec les Waki, des Ismaéliens, dans la montagne du Pakistan, et adopté leurs coutumes. Tim Franco a pêché la morue dans les eaux des îles Lofoten, au nord du cercle polaire. Des expériences fortes qui ont donner des photos et des récits puissants, poétiques, à l'image de la passion qui anime les photographes documentaires. Une revue avec laquelle il fait bon se poser.
Voilà une revue que l'on peut acheter sur le site www.revueepique.com. Je vous rappelle le principal titre de ce journal, la mort de l'ambassadeur d'Italie en RDC après l'attaque de son convoi dans le Nord Kivu. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous Sylvie Berruet.
Merci à vous Anne.
Et on se retrouve demain. Très bonne soirée à tous.
Durant les 1000 premiers jours de la vie, notre cerveau établit les connexions dans